difficulté, ne va pas chez ton frère, car un voisin proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Every tear, every doubt, every time you've fallen down, when you're hurting, feeling shame, when you're numbing all your pain, when you've lost your way and feel so far away, you're not.
J'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Moi aussi j'ai peur du temps qui file. Et le passé ne nous aide pas. Tant de soirs, on se parle pas. On oublie tout, on recommence là. Si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, pas comme les grands. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, le dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir, si tu tombes te soutenir. J'ai dit le meilleur et le pire, je ne jouerai pas. Si on disait qu'on a le temps se retrouver sans faire semblant comme avant. Des images qui se mélangent, matchs dans ma tête. Les nuages qui défilent, tu ne les vois pas. Je te vois la nuit assise à la fenêtre. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Tant de soirs on se parle pas. On oublie tout, on recommence là. Si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, pas comme les grands. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, le dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir, si tu tombes te soutenir. J'ai dit le meilleur et le pire, je ne jouerai pas. Si on disait qu'on a le temps se retrouver sans faire semblant comme avant. Ce matin, j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je les ai pas.
M. Pokora, si on disait sur Phare FM, la radio autrement qui vous accompagne, il est 4h06, on est samedi, on est le 28 juin, en espérant que ça va. Et si vous travaillez, je vous souhaite bon courage, ça va, la nuit avance doucement. Bientôt, ce sera l'heure de rentrer, enfin bientôt, il y a quand même encore quelques heures devant nous. Mais voilà, on est positif et positif, c'est avec Phare FM. On va retrouver tout à l'heure Jean-Marie Ribet dans Pain de Vie. Et puis un peu plus tard, Homme et Femme, mode d'emploi. Et tout de suite de la musique, Citizens, So Kind and It's Freaking Me Out. C'est toujours sur la radio Autrement. Je vous souhaite encore de passer de beaux moments avec Phare FM dans la nuit Autrement.
Minuit 5h.
La nuit Autrement.
Avec Mireille.
Votre message Pain de Vie avec le pasteur Jean-Marie Ribet.
un verset qui m'est revenu à la pensée, c'est celui-ci qui dit que la justice élève une nation. Quelquefois, quand on regarde comme ça la télé ou qu'on entend toutes ces infos et toutes ces désolations, ces spectacles, on se dit quelquefois, mais où est la justice? Comment ça fonctionne chez nous? Et on aimerait qu'il y ait des processus, des fonctionnements qui permettent automatiquement que tout soit réglé, que tout débordement soit arrêté, que tout fonctionne de façon toujours stricte, etc. Et c'est vrai que ce serait souhaitable. La pensée qui m'est venue, c'est que pour que ça fonctionne de manière comme ça, à la perfection dans la société, eh bien, il faudrait que la société soit elle-même constituée de gens parfaits. Pour que la société soit totalement juste, il faut qu'elle soit constituée de personnes qui soient justes. Et chacun pour notre part, nous avons donc aussi une responsabilité, nous sommes devant un défi. Dieu est celui qui est juste. Parce qu'il nous aime, son désir, c'est aussi que nous-mêmes, nous lui ressemblions. On sait que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Et si le péché a corrompu ce programme, c'est pas pour autant que Dieu y ait renoncé. Dieu poursuit son but et jamais Dieu n'a poursuivi un but sans l'atteindre. Dieu seul a une réussite de 100%. Dieu n'a jamais commencé un programme qu'il n'ait pas atteint. Et s'il n'est pas atteint aujourd'hui, c'est parce qu'il est en processus d'être atteint. Et donc si Dieu a dit qu'il a créé l'homme et la femme à son image pour qu'ils lui ressemblent, alors Dieu va y parvenir. Même si aujourd'hui, par certains côtés, ça nous semble encore un peu difficile, un peu aléatoire. Mais Dieu est en train de fabriquer quelque chose de juste. Et Dieu veut nous rendre juste. Et c'est sur cette notion que j'aimerais insister un peu, tout simplement en reprenant quelques versets. Est-ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains, tout au long de l'Épître aux Romains, on va reprendre quelques versets à propos de cette notion de juste, justice, justifié, justification, mais par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Le premier verset que nous trouverons, c'est au chapitre 3 et au verset 20. « Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. » Et Dieu lui-même, alors que cette loi, elle vient de lui, Dieu dit clairement que personne ne peut accéder à la justice, à la justification, personne ne peut être vraiment juste par là. Alors ça peut paraître un peu étonnant parce que Dieu a fondé un système, une structure, et puis c'est comme si après il disait, mais comprenez bien, mais mettez-vous bien dans la tête que c'est inefficace. Dieu nous dit que nous ne pouvons pas être juste par les œuvres de la loi. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être juste sur la base de notre propre pratique, de ce que nous faisons. Pourquoi ? Et Paul dit parce que la loi a surtout eu le mérite de nous apprendre ce qui est mauvais, ce qui est défendu. Dans le jardin d'Éden, avant le péché, la loi était vraiment très très simple. C'était vraiment une loi pratique parce qu'elle consistait en un seul article. Il n'y avait rien d'obligatoire. Et une seule chose défendue. Ça paraît simpliste. Surtout quand on s'aperçoit que cette défense concernait seulement le fait de ne pas manger du fruit d'un arbre. C'est même pas le fruit de tous les arbres de cette espèce. Non, le fruit d'un seul arbre. Mais, puisque c'était une défense, c'était la loi. Et cette loi a mis en évidence que est montée dans leur cœur la volonté de transgresser. Donc la loi a mis en évidence qu'on pouvait faire ce qui est défendu. Sans loi, il n'y a pas d'interdit. S'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de transgression. S'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. La loi nous amène au fait qu'on sait que maintenant on peut faire quelque chose de défendu. On le dit souvent avec les enfants, hein. Il suffit de leur défendre quelque chose, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Puis nous-mêmes, on a été comme ça. Une chose qui est très importante à bien comprendre, c'est que Dieu nous veut juste et qu'en même temps, il nous explique que nous sommes incapables d'y parvenir par nous-mêmes. Ça, c'est très important. Parce que si on essaye d'arriver à quelque chose et qu'on n'a pas pris les bons moyens, si on n'a pas pris les bons outils, si on n'est pas dans la bonne voie, c'est évident qu'on ne pourra pas y arriver. L'outil de la justification, ce n'est pas la loi. L'outil de la justification, ça ne peut pas être notre pratique. Et vous voyez, le problème, c'est que avant de connaître l'Évangile, beaucoup d'entre nous, nous avions eu le souci de vouloir être juste, de vouloir faire ce qui est bien. On s'était confié, pour quelques-uns, dans une loi religieuse, avant de s'apercevoir que finalement, c'était une impasse. D'autres se sont fait leur loi eux-mêmes. Moi, je serais bien à mes yeux en faisant ceci ou cela. C'était une loi pour eux-mêmes, mais ça ne les a pas menés plus loin pour autant. Alors, quand on est venu à l'Évangile, on a compris qu'il fallait sortir de ça. Mais le gros danger, c'est qu'avec le temps, même ayant compris l'Évangile, même étant né de nouveau, quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on revient petit à petit à cet ancien principe. Hein, et on essaye de se comporter assez bien pour se sentir bien, pour être juste. Et sans s'en rendre compte, on remet notre confiance dans nos œuvres, dans notre bonne pratique, pour se sentir juste devant Dieu. Si nous ne sentons pas juste, c'est qu'il nous manque une dimension dans notre relation avec la justice que Christ nous a donnée. Je vous demande, est-ce que vous êtes juste ? C'est pas simplement une question de forme, c'est pas une question de mots, c'est une question bien plus importante, c'est une question de solidité de notre être intérieur. C'est une question de fondement. Pourquoi ? Parce que si nous ne vivons pas dans cette certitude d'être juste, alors forcément, nous allons vivre dans l'autre option. C'est-à-dire que nous ne nous sentirons pas justes. Donc, si nous ne nous sentons pas justes, donc ça veut dire que nous nous sentons culpabilisés, ça veut dire que nous ne nous sentons pas approuvés de Dieu, ou en tout cas pas suffisamment, ou pas dans tous les domaines. Ça veut dire aussi qu'on va continuer d'essayer de faire des efforts pour y parvenir. Ce qui, d'une part, est impossible, et d'autre part, devrait être déjà acquis en Jésus. Voyez ? Alors, tous les chrétiens qui vivent sans avoir cette complète certitude d'être juste, alors ceux-là, eh bien, vivent avec un peu d'amertume, avec un peu de souci, avec une culpabilité. À la fois, on adore Dieu, et en même temps, on en a peur. Parce que si on n'est pas vraiment approuvé de Dieu, si on n'est pas juste devant Dieu, eh bien plus on se rapproche de Dieu, plus on a peur. Je ne parle pas de la crainte normale de Dieu, ce qui est une crainte de respect, une crainte de soumission, une crainte pleine d'amour, pleine d'affection, pleine d'admiration. Ça, c'est la crainte normale dans le sens de craindre l'Éternel. Mais avoir peur de Dieu, c'est autre chose. Voilà pourquoi des gens prient pour être remplis du Saint-Esprit, mais c'est leur bouche qui le dit. Ils veulent être remplis du Saint-Esprit, c'est ce que leur bouche dit. Mais leur cœur, à l'intérieur, a peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu parce qu'ils ne se croient pas réellement justes devant Dieu. Alors d'un côté, ils réclament la présence de Dieu, l'intimité de Dieu, un contact avec Dieu, être sous l'onction de Dieu, rempli de Dieu. Mais en même temps, ils en ont peur. Alors, comment peut-on à la fois dire qu'on aspire à quelque chose et d'un autre côté se sentir mal à l'aise avec? Alors forcément, on ne peut pas être vraiment rempli comme ça. Je sais bien que souvent, ces notions-là ne sont pas des notions binaires. Ce n'est pas tout oui ou tout non. On est bien plus compliqué que ça. Et malheureusement, on a souvent des mélanges. D'une part, dans certains domaines, peut-être intellectuellement, on sait qu'on a été justifié, mais dans notre esprit, on ne le vit pas pleinement. Et puis, dans certains domaines de notre vie, on croit que c'est acquis. Dans d'autres domaines, on n'est pas sûr. Et ce qui a provoqué en France, et disons même en Europe, la réforme du XVIe siècle, c'est la compréhension, par quelques hommes, dont Luther, de ce principe que la justice est quelque chose qui est réel. Luther a compris que la justice de Dieu n'était pas simplement un ordre que Dieu donnait et un ordre impossible à atteindre, mais que c'est une réalité parce que c'est un don, c'est un cadeau. Une fois où je parlais avec des gens qui avaient une religion, on leur a parlé de cette notion de justice, cette notion de certitude du salut, etc. Ces gens nous disaient, mais vous êtes bien orgueilleux de vous croire juste. Je dis, mais c'est pas orgueilleux de croire qu'on a reçu un cadeau. Quelqu'un me donne un cadeau, je le prends. Ça donne gloire à celui qui m'a donné le cadeau, pas à moi. La gloire, elle est à Dieu qui nous a donné la justice. Ça prouve qu'on était incapable d'y arriver nous-mêmes. Alors moi je dis simplement, les gens qui ne veulent pas prendre ce cadeau, peut-être sont orgueilleux. Parce qu'il voudrait y arriver. Autrement, moi, quelqu'un me donne un cadeau, je le prends. Si quelqu'un ne veut pas prendre les cadeaux, je dirais c'est un peu idiot, mais il fait comme il veut, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu nous donne. Et ce n'est pas un raccourci. C'est quelque chose de très puissant. La puissance de Dieu, c'est démontré dans la vie, dans l'humanité, par le fait que Dieu a été capable de transférer le caractère tout puissant de sa propre vie. Dieu le transfère dans cette humanité. Est-ce qu'on peut lire quelques autres versets encore? Au chapitre 3, toujours, verset 24. « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez, encore une fois, gratuitement justifiés par la grâce. Mais Dieu est gratuit, gratuitement. Frères et sœurs, moi j'ai vu des chrétiens qui sont quelquefois chrétiens depuis très longtemps et qui aiment vraiment Dieu et qui sont vraiment sauvés, ça je n'en doute pas. Ils aiment le Seigneur et ils sont vraiment engagés. Mais justement, une partie de leur zèle, une partie de leur enthousiasme, une partie de leur façon de toujours foncer, d'être dans toutes les activités, d'être sur tous les coups, ne vient pas toujours sainement de leur affection pour Dieu, mais ça vient quelquefois de leur volonté de mériter, de leur volonté de se fabriquer cette justice, d'une crainte de ne pas être revêtu complètement de la justice de Dieu. Jésus nous a donné cette justice. Vous n'avez rien pu faire pour. C'est comme un vêtement. C'est Dieu qui l'a fait entièrement. Vous n'avez pas pu fabriquer le tissu. Vous n'avez pas pu prendre les morceaux et les coudes. Vous ne pouvez même pas y ajouter un bouton. Vous ne pouvez pas y faire un galon. C'est quelque chose que Dieu a fait. Vivre dans cette révélation de la justice gratuite que Dieu nous a donnée, c'est tellement reposant. Il y a des chrétiens qui sont fatigués de leur engagement. Fatigués par le souci qu'ils se font d'être engagés pour Dieu parce qu'ils croient qu'il faut le faire, parce qu'ils croient que c'est quelque chose que Dieu exige, parce qu'ils pensent que s'ils ne le faisaient pas, est-ce que Dieu les approuverait vraiment? Et ça, c'est très, très fatigant. Alors que d'autres sont très engagés et sont beaucoup moins fatigués. Parce qu'ils ne sont pas engagés pour que ça leur donne un mérite. Ils sont engagés parce qu'ils aiment Dieu. Parce que tout naturellement, maintenant, ça découle de cette justice et non pas pour la faire. Encore un peu plus loin, le verset 26. Hein, il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez, il y a comme une opposition ici à être juste tout en justifiant. Paul reconnaît que c'est comme s'il y avait un paradoxe là-dedans. Parce que Dieu nous justifie, quelqu'un pourrait dire, c'est pas juste puisqu'on était coupable. Comment ça se fait que Dieu est juste en déclarant que nous, des coupables, nous sommes justes? Est-ce que Dieu est juste en disant ça? Oui, il est juste. Parce que Dieu n'a pas annulé nos fautes. Dieu n'a pas décidé de ne pas en tenir compte. Il n'a pas décidé qu'elles n'existaient pas. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas dit, bon, allez, j'ai rien vu, passez plus loin. Dieu a considéré nos fautes. Et il s'en est occupé. Il a été juste tout en nous justifiant parce qu'il a puni la culpabilité, parce qu'il a puni les péchés, parce que son fils a été puni pour ça. Nos péchés n'ont pas disparu comme ça. Non! Dieu a considéré que nos fautes étaient tellement graves que c'était des fautes mortelles. Alors ces fautes mortelles ont été punies. Donc Dieu, puisqu'elles ont été punies, Dieu est juste tout en nous justifiant. Il n'a pas agi d'une manière inconsidérée. Dieu n'a pas agi d'une manière capricieuse. Dieu a agi d'une manière rationnelle, d'une manière juste, en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On va y revenir. Encore au verset 28 aussi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. La foi, c'est croire que ce que Jésus a fait pour nous est efficace. C'est justement cette capacité de croire. Vous voyez, dans un sens, il n'y a qu'une foi. Parce que la foi, elle vient seulement de Dieu. Personne ne peut fabriquer un milligramme de foi. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui fabrique la foi. Maintenant, on peut accepter de la recevoir ou pas la recevoir. Et comme toute chose que Dieu nous a donnée, on peut aussi les conserver, et puis les conserver petits, ou les faire grandir. Et la foi dans la justice de Dieu, c'est aussi quelque chose que nous devons faire grandir. Ce que nous avons compris le jour où nous sommes convertis, c'est bien, alléluia. C'est cette quantité de foi qui nous a permis de rentrer dans le salut, de passer hors du monde dans lequel on était avant, de sortir d'une nature où on était condamné, où on allait en enfer. Maintenant, cette foi nous a permis de croire que maintenant on était différent, que maintenant on est devenu une personne nouvelle, que maintenant on est justifié. Vous voyez, je crois qu'on a besoin de faire des progrès aussi dans ces domaines-là. C'est la foi dans les dons de connaissance. C'est la foi que Dieu parle aujourd'hui, que Dieu agit aujourd'hui. Mais il y a aussi des domaines de la foi qui concernent ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est aussi la foi par rapport à notre identité devant Dieu même. Si un chrétien doute par rapport à lui-même, que Dieu l'aime, si un chrétien n'est pas tout à fait persuadé que Dieu le regarde comme entièrement juste, si un chrétien continue de se dire peut-être, moi j'en ai quand même fait des sévères, hein. Enfin bon, mais je crois quand même, globalement je crois que Dieu me regarde comme juste. Ouais. Oui, mais ce globalement là, c'est ça qui après te met du poison dans ta vie. Est-ce que tu crois entièrement que Dieu te regarde entièrement juste? Sinon, dans les domaines où tu n'es pas sûr, tu vas continuer de te bagarrer ou tu vas continuer d'avoir un fardeau sur la tête. Ce qui est un petit peu embêtant avec ce domaine, quand un prédicateur prêche ces choses-là, ça donne un peu à certains l'impression qu'on prêche un évangile facile. De toute façon, Dieu pardonne tout, Dieu est passé par-dessus tout, Dieu a tout changé, voilà. Alors, quelques-uns se disent, mais ça, c'est dangereux, alors on peut faire n'importe quoi. Et je crois que ça, c'est justement quand on n'a pas compris ce que la justice de Dieu fonctionne comme ça. Quand on a compris le prix de la justice de Dieu, et quand on y est rentré, comme ces versets le disent, par la foi, quand on l'a vraiment reçu par la foi, alors on aime cette justice. Et on aime la justice de Dieu sur nous. On aime être juste. Et c'est justement à ce moment-là, plus on a compris ces choses-là, plus on a de force pour vouloir être juste. C'est quand même paradoxal. Regardez, tous nous aimons le pardon des péchés. Tous nous aimons être dégagés du péché, etc. Mais reconnaissons que dans certains domaines, ça nous est des fois difficile. Et je crois que une chose qui nous rend la lutte contre le péché difficile, c'est quelquefois notre manque de perception profonde de ce qu'est la justice de Dieu. Plus nous comprenons vraiment la puissance de cette justice de Dieu, plus nous l'aimerons et plus nous la tiendrons pour puissante, pour valable, pour attractive, pour désirable. Et plus nous aurons envie de fuir tout ce qui est contraire à la justice. Donc ce que Paul dit ici n'est pas un évangile qui nous permettrait de nous appuyer sur une doctrine d'un Dieu très bon qui passe sur tout. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est justement une doctrine qui nous donne envie de chercher la proximité de ce Dieu tel qu'il est, de ce Dieu juste. Encore quelques versets. Chapitre 4, verset 25. « Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Si Jésus était mort, s'il était resté mort, nous ne serions pas justifiés parce que ce serait comme si notre injustice avait été placée sur lui et que notre injustice aurait fini par avoir raison de lui, raison de sa nature, de sa puissance. Mais Christ n'est pas resté mort, il est ressuscité et ce texte dit qu'il est ressuscité dans un but précis. Il est ressuscité pour notre justification. Et autant que Christ est entièrement ressuscité, autant nous sommes entièrement justifiés. Frères et sœurs, maintenant encore, il y a des chrétiens qui ont besoin d'accepter, de renoncer à se considérer comme coupables. À la fois, nous devons vous montrer, et nous montrer, et je dois me montrer, ce qu'il y a de coupable, ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'être transformé. Autant nous avons besoin d'être lucides avec les domaines que dans nos vies nous n'avons pas accepté encore de mettre sur la croix. Autant en même temps nous devons comprendre qu'en Jésus-Christ nous avons été totalement justifiés et définitivement. Encore un verset au chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Ici, la justification est présentée comme ayant été effectuée par le sang de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui nous a donné cette justification. Nous avons été justifiés par le sang. Et ce sang a été versé pour nous. Ce qui prouve à quel point cette question de justification tenait dans le cœur de Dieu. Dieu crée comme ça. Dieu dit, la chose existe. Ça coûte aucune peine à Dieu. C'est même pas un travail. Mais Dieu a fait la seule chose qui était difficile pour lui. Il a donné son fils, son sang. Vous voyez, le sang, ça devient une notion un peu gênante, c'est un peu difficile. Mais Dieu nous dit que le sang de Jésus nous a justifiés. Dans l'ancienne alliance, le sang était toujours à l'extérieur. On était sous l'aspersion du sang des victimes sacrifiées. Mais Jésus a apporté une notion complètement nouvelle, une notion révolutionnaire qui a scandalisé tous ses contemporains. Il a dit non, le sang, il doit rentrer dedans. Jésus n'a pas dit « je viens pour que vous soyez sous mon sang ». Il a dit « je viens pour que mon sang rentre au-dedans de vous ». Et le dernier jour avec ses disciples, comme on l'a commémoré tout à l'heure, Jésus a pris cette coupe et il a dit « prenez ». Buvez-en tous, ceci est mon sang. Et dans Jean 6, quand Jésus a dit, il faut que vous buviez mon sang, les gens ont dit ça, on ne peut pas écouter ça. Voyez, aujourd'hui, nous devons bien comprendre que le sang de Jésus est au-dedans de nous. Nous ne sommes pas sous le sang, mais le sang de la vie, le sang de la justice est au-dedans de nous. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait avoir qu'une notion de justice qui était une notion d'attente. C'était la grâce de Dieu qui se manifestait à travers ses sacrifices. Dieu disait, par grâce, je vous mets sous un sang, le sang des sacrifices, qui vous permet d'être momentanément épargné. Mais ça ne changeait rien fondamentalement. Personne n'a pu aller au ciel avec ça. Jésus dit, aujourd'hui, personne n'est monté au ciel en son temps. Mais parce que Jésus nous a donné un autre moyen, au lieu que ce sang vienne seulement sur nous pour nous cacher, ce sang vient au-dedans de nous pour nous changer, pour nous nettoyer, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous rendre justes. Être juste aux yeux de Dieu, être justifié, ça veut dire que Dieu nous regarde exactement comme si nous n'avions pas fait, j'allais dire ce péché, cette myriade de péchés. Alléluia! C'est pour ça que nous pouvons être forts. Et plus nous considérons ces choses, et plus nous avons de foi dans cette chose-là, alors plus nous avons confiance dans la justice de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la puissance que Dieu met lui-même dans notre vie, et plus nous avons cette foi, plus nous lutterons contre l'injustice, en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. La justice élève un homme. Et quand des hommes sont élevés, alors la justice de ces hommes et la vue de nation. On peut montrer toutes les formes d'injustice qu'il y a autour de nous, dans le fonctionnement de la structure de la société, à condition d'être conscient des combats pour la justice que nous devons mener pour nous-mêmes, à condition que nous restions lucides sur ce que nous avons apporté nous-mêmes comme ferment d'injustice dans notre société. Et si chacun d'entre nous, nous luttons pour la justice dans notre cœur, pour la vivre avec Dieu, alors nous allons la vivre aussi avec notre prochain. Et notre société autour de nous va être au bénéfice de cette justice. Encore un ou deux versets. Je suis au chapitre 5, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, c'était Adam, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Plusieurs, on comprend que dans le texte ici, plusieurs veut dire une multitude. Il y a eu un seul péché originel qui après s'est multiplié et il y a eu un seul acte de justice, celui de Christ qui est survenu après une multitude, d'après plusieurs. Chacun d'entre nous, nous avons commis des millions de péchés. Mais au lieu de faire le compte, Dieu a décidé de nous donner un moyen, une sortie. Encore au verset 18. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. La justification s'étend à tous les hommes. Sont sauvés ceux qui le prennent, l'acceptent par la foi. Mais le but de Dieu, c'est que la justification soit étendue à tous les hommes. Il n'y a personne ici qui pourrait dire, bon, mais moi, est-ce que Dieu veut me sauver? Si quelqu'un est sous l'emprise de ce mensonge, alors que ce mensonge soit lié et détruit maintenant au nom de Jésus. Dieu veut que chacun dans cette salle soit sauvé pour la vie éternelle définitivement. Dieu veut que chacun puisse sortir de ce lieu aujourd'hui en étant lavé aujourd'hui même de chacun des péchés qu'il a commis jusque-là. Parce que la justice de Christ est quelque chose qui est entier, qui est définitif. Tu reçois ça, tu comprends ça, tu marches là-dedans, ta vie est changée. Et tu t'apercevras que les faiblesses qui te tenaient, à ce moment-là, maintenant, par la justice de Dieu, tu auras la force de combattre l'injustice. Mais procéder à l'inverse, en disant d'abord je vais chasser l'injustice de ma vie, et comme ça j'accéderai à la justice de Dieu, c'est un cul-de-sac. C'est impossible. Il faut recevoir la justice de Dieu pour, avec la justice de Dieu, combattre l'injustice. Amen. Encore un ou deux versets. Chapitre 8, verset 30. Et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est beau ça, hein, frères et sœurs. Ce que nous voyons en nous-mêmes aujourd'hui, c'est un mélange. Nous voyons la grâce de Dieu, nous voyons la vie de Jésus, nous voyons toutes les choses merveilleuses que Dieu a mis en nous, et puis nous voyons les reliquats de la chair. Nous voyons, comme disait Luther, que le vieil homme encore se débat, que le mort gigote encore pas mal. Alors ça nous est difficile de nous sentir vraiment glorifiés en Jésus. Et pourtant, Paul l'a dit comme une vérité qui était déjà réalisée au moment où il l'a écrit. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est bon de se repasser dans notre cœur ces vérités fondamentales. C'est bon de se replacer sur des assises afin d'avoir de la force. Plus on est ferme sur l'identité de ce que Dieu a fait en nous, plus on a de la force contre l'adversité. Plus on est conscient de nos droits. Mais si on se sent sale, si on se sent injuste, si on se sent lamentable, si on se sent etc., quand on a des difficultés, des combats spirituels, quelle force on va avoir? Déjà on est comme si on était vaincu, déjà on est honteux. Tandis que la parole de Dieu nous donne de la puissance. Encore au chapitre 30, verset 33... Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ici, c'est dans le sens justifier, non pas rendre juste, mais dans le sens de proclamer juste, faire reconnaître juste, comme devant un tribunal. Lorsque quelqu'un est justifié, ça change pas sa nature, mais ça change l'opinion que les autres avaient de lui. Le tribunal déclare, non, il est juste, il a été justifié. Eh bien, Dieu lui-même plaide pour nous. Encore au chapitre 10. Verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si ce n'est pas le mot fin dans le sens comme à la fin du film, c'est la fin, c'est dans le sens de la finalité, la réalisation, arriver au bout du projet, arriver au bout de ce qui était nécessaire, c'est l'amener à la perfection. Christ a réalisé la loi, il a amené la loi à sa finalité. Sa finalité, c'était de démontrer que Dieu est un Dieu de grâce, que Dieu veut nous justifier, que Dieu nous donne les moyens. La loi nous a amenés sur le bon chemin, nous a amenés à Christ. Ça, c'était sa vraie finalité. C'était pas de nous condamner, c'était pas de nous enterrer. La loi voulait nous amener à la vie. Alors Christ est cette réalisation. Alléluia. Je termine avec un verset dans 1 Timothée 3:16. Sans contredit, le mystère de la piété, grand Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il a été justifié par l'Esprit. Évidemment, ce n'est pas dans le sens où on en parlait tout de suite, justifié, comme si Christ avait eu besoin d'être rendu juste. Il est juste, il a toujours été juste. L'Esprit de Dieu a œuvré afin de le proclamer, de le démontrer, de l'attester juste. Et ça prouve que, j'ai pris ce verset pour insister sur le fait que nous-mêmes aussi, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit par rapport à ces notions. Nous avons besoin que notre connaissance de la justice de Dieu ne reste pas une connaissance intellectuelle, que ça reste pas une connaissance théorique, que ce soit pas simplement quelques versets qu'on a lus, qu'on a disséqués, qu'on a cru et puis c'est tout. Mais il faut que ce soit une démonstration du Saint-Esprit en nous qui nous fasse rentrer dans cette connaissance et dans cette vérité. J'aimerais vous inviter aussi, chez vous, quand vous voudrez, vous inviter à prier Dieu pour ça. Dites-lui, Seigneur, ces choses, je les ai entendues, je les connais. Mais je voudrais vous inviter à demander à Dieu que l'Esprit de Dieu les éclaire, ou peut-être les rééclaire, les illumine, vous débarrasse de notions de mérite, d'œuvres, d'ordonnances, de quoi que ce soit pour faire, toute notion d'ombre, toute notion de peur de Dieu, d'insatisfaction, de doute dans la relation que vous avez avec Dieu. Il faut que ce soit l'Esprit Saint qui fasse ce travail.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Il est 5 h moins 20 passé sur Phare FM. C'est toujours Phare FM qui vous accompagne sur la radio Autrement, dans la nuit Autrement. Et on poursuit notre programme. C'est en musique d'Ara McLean, What Love Looks Like. C'est maintenant À quoi ressemble l'amour.
Wake up, see it. Never imagined life could be this good. When you found me, it stopped me in my tracks. My world spins right at last. That's what love looks like. Words fail to say just what love looks like. When you give your heart away, it takes you in, holds you close, never lets you go. So picture all the best things in life. That's what love looks like. Oh, oh, oh. It's losing yourself and discovering the truth. More than a feeling, your love is living proof. The only thing that gives me any hope, knowing I'll never be alone.
me véganiser, j'aurais moins mal aux pieds. Éviter les cactus à manger, rendre à la vie ce que j'ai ôté, et rendre au monde ce qu'il m'a donné, et toi à mes côtés. Cette mer qui s'habille au soleil et te caresser, c'est une merveille. Et de tout ça, tu es la plus belle. On va se noyer dans le septième ciel. Viens, on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux sous les cieux. Un petit peu, deux petits peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux sous les cieux. Un petit peu, deux petits peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux.
Jean-Louis Aubert, Merveille sur Phare FM, et notre programme se poursuit. Votre prochain rendez-vous, ce sera dans 4 minutes, Hommes et Femmes, Mode d'Emploi. Et tout de suite, dès la musique avec John Allan, Living God.
Until the day you bring me home, Jesus, lead my country. Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour. En partenariat avec The Watchers.
Les souffrances causées par la pornographie, notre thématique aujourd'hui.
Je voudrais vous rappeler que le sexe, en dehors du mariage, n'est pas sans danger. Il y a vraiment une zone de danger parce qu'on connecte émotionnellement et spirituellement avec quelqu'un d'autre, et même physiquement, que notre propre conjoint, que ce que Dieu avait prévu pour nous.
Il faut se souvenir de plusieurs choses. Quand on regarde par exemple à la pornographie, déjà, c'est que les acteurs et les actrices sont des êtres humains à part entière. Ils ont une âme, un esprit, un corps, ils souffrent, Christ est mort pour leur péché aussi, donc ce sont des êtres vivants. Et évidemment que quand on se connecte avec de telles personnes, au travers d'un écran ou d'un magazine ou d'une photo quelconque, on connecte, comme Rachel vient de le dire, au niveau de l'âme, de l'esprit aussi. Mais on entend souvent, mais ça ne fait de mal à personne. Bien si, ça peut faire du mal, et même ça en fait, et ça vous en fait à vous aussi. Et je vais vous parler de quelque chose peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, qui est assez récent, mais qui apparaît chez les jeunes hommes qui sont de forts consommateurs de pornographie. C'est quelque chose que l'on appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot bizarre? Ça veut simplement dire que maintenant, de plus en plus de jeunes hommes ne sont plus capables d'avoir d'érection en face d'une véritable personne, en face d'une femme, au moment d'avoir un rapport physique. Eh bien, leur sexe ne réagit plus parce que le cerveau est uniquement habitué à avoir une stimulation virtuelle au travers d'images. Et une personne réelle n'est plus dans la capacité de leur susciter ce genre d'érection, ce genre de réaction qui est naturelle au corps humain. Donc ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a maintenant de jeunes hommes qui sont en pleine force de l'âge et qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel à cause de cela. Oui, la pornographie, c'est dangereux. C'est dangereux à plein de niveaux. C'est évidemment dangereux pour ceux qui la pratiquent, parce que ça peut créer des addictions, toutes sortes d'addictions, et même des dysfonctionnements physiques. Par contre, il est important pour nous de terminer en soulignant que oui, on peut vaincre la pornographie. Elle peut être abandonnée, on peut être victorieux, marcher dans une vie de victoire de plus en plus grande, jusqu'à pouvoir dire j'en ai été complètement délivré, j'avais ça dans mon passé, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc on vous encourage à trouver des groupes de parole, particulièrement on encourage les responsables d'église à créer de tels groupes de parole, sans jugement, d'une manière confidentielle, mais où des jeunes hommes ou moins jeunes qui ont des difficultés avec la pornographie pourront s'exprimer librement, sans peur d'être jugés ou condamnés ou rejetés, mais en trouvant vraiment de la redevabilité et de l'aide pour sortir de leurs problèmes en étant victorieux.
C'était Hommes et femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
I was just thinking, did I turn out to be who I wanted to be when I was dreaming? Back when I was 16, back when I met Jesus, how it felt in my heart to know that God was love and how He really sees us. I still believe it. Just because I'm a believer doesn't mean I don't forget that my heart is a deceiver. There's doubts in my head, but I belong to a Redeemer who's not finished with me yet. I could break it all and He'd make it all new. That's the gospel truth. That's the gospel truth. I was just thinking, sitting in the backyard, watching my two little girls swinging. Hope I'm a good dad, God knows that I'm not perfect, but I'm keeping my eyes on the one who is. Even though I hurt him, he still calls me friend. Just because I'm a believer doesn't mean I don't forget that my heart is a deceiver. There's doubts in my head, but I belong to a Redeemer who's not finished with me yet. I could break it all and He'd make it all new. Gospel truth. Thank God, thank God, thank God. That's the gospel truth. Thank God, thank God, thank God. No lie, it's true. All the logic in the world can never pull me through. No lie, it's true. All the logic in the world can never pull me through. I was just thinking, did I
turn out to be who I wanted to be when I was dreaming, back when I was 16. Yeah, I may be a believer, that doesn't mean I don't mess up, 'cause his heart's in my witness, but he's still filling my cup. For him, I wish I could be better, but he says that I'm enough. It's done, and there's nothing I can do.
Brandon Heath, ce gospel trot sur Phare FM, la radio autrement qui vous accompagne dans la nuit autrement. Dans 3 minutes, il sera 5 heures. On poursuit notre programme en musique. Zaz, je pardonne et je vous retrouve tout de suite après.
Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, mi perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort. Des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono.